Bien, je vous propose de vous asseoir, ceux qui sont encore debout. Nous allons continuer cette journée d'études peintes en discutant. Alors, il y aura deux communications autour du même thème, qui est le thème de la patrimonialisation du punk. Alors, pour certains, ça peut paraître être un gros mot, patrimoine, patrimonialisation. Pourtant, c'est une question qui se pose à partir du moment où on travaille sur l'histoire de la scène punk en France, qu'on récolte de l'archive, qu'on voilà, se pose la question de savoir ce qu'on en fait, hein, et aussi de cette question du patrimoine punk. Donc, voilà. Est-ce que, alors parmi les enjeux, je suppose que dont va discuter Marguerite Zion, qui est en master sur la question de patrimoine, il y aura sans doute cette question de est-ce que au fond patrimonialiser une culture, c'est la momifier ou pas? C'est une question qui se pose vraiment. Dans un premier temps, on écoute donc Marguerite Zion, et dans un deuxième temps, nous écouterons Cyril de la bibliothèque municipale de Lyon, Cyril Michaud, qui viendra discuter, lui, d'une autre forme de patrimonialisation, finalement, qui est l'exposition, Exposer le rock à Lyon sur les années 78-83. Alors, Marguerite, ben voilà, tu as la parole pour un petit temps de 15-20 minutes.
Moi, ça y est. Bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Marguerite Dion, je suis en master à l'Université de Lyon en culture et patrimoine, parcours médiation culturelle et communication. Et donc j'ai choisi de traiter du sujet les enjeux de la patrimonialisation du punk à Lyon. Et donc j'ai pu prendre contact avec Philippe Lyotard qui m'a proposé de participer à cette journée et je le remercie. Donc les archives punk de la scène punk sont assez diverses. Elles sont à la fois sonores, documentaires, identitaires, mais elles sont avant tout vivantes. Ce sont des témoins et des réelles sources d'informations concernant la période qui a été quand même un tournant concernant la question identitaire de la société. Les punks sont des avant-gardes qui ont voulu briser les codes de l'esthétique, de la musique. Contrairement aux a priori, donc ce qui est assez dur entre l'institutionnalisation et le punk, c'est que l'institution n'accepte pas le punk et le punk n'accepte pas l'institutionnalisation. On se retrouve un peu en équilibre entre les deux, mais quels sont justement ces enjeux du patrimoine? Contrairement aux a priori, le punk n'est pas un mouvement américano-anglo-saxon. Elle a su trouver aussi une voie identitaire en France, de manière assez indépendante, un peu plus austère et militante. Elle a été le porte-parole d'une jeunesse à contre-courant et forte de représentation. C'est avant tout un patrimoine compliqué, car les archives sont assez difficiles à sauvegarder et à récolter, puisqu'elles sont un peu disséminées partout dans les réseaux de musiciens. C'est avant tout un patrimoine mémoriel. Donc on va parler déjà d'une archive vivante, c'est-à-dire d'entretien, d'enregistrement, de concerts, de répétitions. De plus que l'objet punk en lui-même est un matériel assez périssable, qui n'a pas pour but de durer. Il est produit localement, il est envoyé par la poste, comme c'était le cas des fanzines, qu'on écrivait à la main, qu'on photocopiait en quantité limitée, puisque ça coûtait cher. Qu'on envoyait aux amis, aux groupes, aux squats pour parler des programmations. Introduire la notion de patrimoine et patrimoine immatériel. Donc un patrimoine, c'est avant tout un héritage culturel, quelque chose qui se conserve dans un but de pouvoir être transmis aux futures générations. Donc c'est un travail d'abord de récolte, de conservation, de mise en valeur. Donc comment pouvons-nous considérer le punk? Quel mouvement? Est-ce qu'on le considère comme un mouvement artistique, politique, anthropologique? En effet, le punk est un mouvement fragile. On a très peu d'enregistrements. Par exemple, je pense à Virginie Despentes, qui a été chanteuse. Serge a pris des photos qu'il a en plaquette et qu'il n'a pas pu développer, faute de financement, enfin d'argent, et qu'il a gardé chez lui et qui aujourd'hui sont récoltables, qu'on pourrait développer encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est cassette audio, vidéo, photo, toutes les traces sont importants de conserver pour les reconstituer. Donc, par exemple, on trouve donc des habits vraiment sur cette culture du do it yourself et des affiches, donc des flyers. Du coup, je vais vous parler du patrimoine, comment on définit le patrimoine, donc selon le code du patrimoine, à l'ensemble des biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Mais il s'entend aussi également au patrimoine immatériel, qui a été défini par l'UNESCO en 2003, parce que le patrimoine ne s'arrête pas seulement à l'objet, ni à l'architecture. Il peut comprendre aussi des traditions, des expressions héritées et transmises. Ça peut être aussi des pratiques sociales, des événements festifs. Le patrimoine culturel et matériel est important face à la mondialisation pour le maintien justement des diversités sociales, justement contribuant aux communautés à se sentir à part entière d'une société. Donc il peut être transmis de plusieurs façons, donc soit en musée d'art et tradition populaire, soit en écomusée. Et un écomusée, donc pour vous le définir, c'est le rôle de l'écomusée a un rôle de réunir localement la population autour d'un projet pour développer une base de données et favoriser justement les rencontres, les diffusions et les initiatives. Mais le punk, c'est avant tout un patrimoine qui se crée, qui se recrée, qui évolue en fonction des interactions sociales et des lieux. Donc moi, étant originaire d'Amiens, j'ai un peu fréquenté le milieu underground. Mais quand je suis arrivée à Lyon et que justement j'ai vu toutes ces affiches, c'est ce qui m'a justement donné l'envie de me dire qu'il y avait un enjeu justement dans la patrimonialisation du punk. Cependant, un patrimoine immatériel ne peut être fondé seulement lorsqu'il est reconnu par cette communauté et par un groupe d'individus qui le crée et qui le transmettent aux personnes. Donc sauf ces personnes-là, peuvent se déterminer comme telles. Par rapport à ça, donc, j'ai envie de vous parler de l'événement qui s'est passé le 26 novembre 2016 à Londres, à l'occasion du 40e anniversaire du fameux Anarchy in the UK des Sex Pistols. De nombreux souvenirs ont été mis à feu, des enregistrements rares des Sex Pistols et des vêtements signés Vivienne Westwood pour une valeur de 5 millions d'euros. Et c'est Joe Corr, donc le fils du manager des Sex Pistols et Vivienne Westwood, qui se sont chargés de cette action. Je vais citer Joe Corr qui dit « Le punk n'a jamais, au grand jamais, signifié la nostalgie. Il est devenu un autre instrument de marketing pour vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, l'illusion d'un autre choix, la conformité sous d'autres atouts. » Donc cette action de justement détruire les archives donc est forte dans le sens où il refuse totalement l'institutionnalisation et justement de fêter les 40 ans du punk dans les musées et dans d'autres événements. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions puisque justement perdre des archives, les brûler, fait augmenter la cote en elle-même du punk et justement produit un cercle vicieux qui fait que plus ça devient rare, plus on a envie de les avoir. De plus, on parle énormément aussi du côté marchand. Donc, dans mes recherches, quand j'ai cherché par rapport aux réactions de cet événement, ça a surtout été le côté mercantile, puisqu'on commence à coter le punk. Et ici, on parle de 5 millions d'euros. Donc, après, c'est un cercle vicieux, en effet, puisque de nombreuses marques, grandes marques de distribution textile affichent dans leurs rayons des jeans troués, des lavés, des t-shirts au logo des groupes punk de l'époque. Donc justement, c'est pour ça que je me pose la question, peut-on alors poser la question, dans quelles conditions est-ce qu'on peut prétendre justement sauvegarder ce patrimoine punk tout en gardant son contexte? Et quels sont les enjeux de cette sauvegarde? Il faut récolter dans un premier temps les données, donc c'est avant tout un travail qui se fait sur le terrain, où on va à la rencontre des acteurs, donc que ce soit le public, les artistes, les photographes, les vidéastes, les régisseurs de studios, les radios, les lieux de pratique comme les salles ou les concerts. C'est une relation de confiance qui doit être mise en place puisque ces archives ne sont pas seulement des archives, elles ont aussi une histoire et chaque objet a sa propre histoire, comme quand on enregistrait une cassette et qu'on la passait entre amis et qu'elle tournait un peu en France. Récolter les données, ça a été fait notamment avec la Fanzinothèque de Poitiers, qui a été ouverte en 89 par Didier et Marie Bourgoin. Donc en 89, quand des adolescents du lycée ont demandé à la mairie s'il était possible d'ouvrir une fanzinothèque, ils aimaient les fanzines et donc ça a été fait. Didier et Marie Bourgoin étaient justement des acteurs de la scène punk en elle-même. Ils ont réussi, grâce en étant dans ce réseau, de collecter énormément d'archives, donc de fanzines venant du monde et aujourd'hui ils en reçoivent tous les mois. Donc la fanzinothèque a pour mission de conserver, d'archiver et de diffuser justement ces fanzines. Notamment, donc, comment ne pas parler de Pind aussi, qui a lancé une base de données collaborative où chacun peut donner et apporter des précisions sur cette période. Donc les recherches aussi se font notamment sur les réseaux sociaux puisque voilà, avec l'arrivée d'Internet, les groupes se sont mis à communiquer sur des blogs, sur des forums et de nombreux groupes aujourd'hui aussi partagent les souvenirs punk, que ce soit sur Facebook, également sur les forums et sur YouTube aussi, donc on va diffuser où on diffuse la musique. Maintenant, j'aimerais faire le point aussi sur comment exposer le punk. Donc le punk ne correspond pas forcément aux critères de l'art, puisque l'œuvre punk n'est pas généralement signée ou attribuée à un auteur, au contraire, elle est plutôt signée par un pseudonyme, donc totalement anonyme. Dans le contexte d'une exposition pour sa valorisation, il faut aussi faire attention au lieu qu'on utilise. On ne peut pas exposer une guitare sans raconter son histoire. Là, je vous montre l'exemple de l'exposition qui s'est passée à la Villa Médicis, donc Europunk, la culture visuelle punk en Europe entre 76 et 80, avec pour commissaire d'exposition Éric de Chassé. Donc, elle s'est passée en 2011 à la Villa Médicis. Et justement, ici, on peut se poser la question du contraste entre les lieux Renaissance avec des affiches punk et tout ce qui touche à la scène punk. Support de collage, pochette de disques, vêtements, extraits de concerts. Donc, Éric de Chassé est un historien de l'art et il considère justement le punk comme un mouvement artistique global. En effet, le punk aura énormément d'influence à la fois sur les mouvements musicaux et artistiques qui ont suivi ce mouvement. Et l'intérêt ici était aussi de montrer les liens et les ressemblances du mouvement punk aux avant-gardes ayant pour tradition de faire table rase du passé comme le Fu Dada ou l'international situationnisme. L'exposition a un peu voyagé, donc elle s'est passée aussi à Genève, dans le musée d'art contemporain, et aussi s'y passait à Charleroi, dans un centre d'art contemporain. Et ensuite, elle a poursuivi son chemin à la Cité de la musique philharmonique de Paris. Ensuite, j'avais aussi une autre type d'exposition à vous montrer, qui n'est pas punk mais rock, qui s'est passée à Laval en 2010, où lors de cette exposition, où ils avaient envie justement de retrouver justement leur mémoire rock. Une exposition a été faite et ils ont reconstitué un local de répétition des années 80. Donc vraiment typique de l'époque où on peut voir par exemple des barquettes d'œufs sur le plafond pour insonoriser la salle. L'un des points importants dans la patrimonisation est de mettre notamment en avant l'esprit punk. L'objet en lui-même n'est pas qu'un objet que l'on peut textualiser. Il faut vraiment recontextualiser les concerts, les répétitions et justement cet esprit de contestation que l'on définit encore aujourd'hui. Pour Lyon, ça peut être aussi un moyen de mobiliser et peut-être efficace dans la promotion du territoire. Elle pourrait mener une identification locale à l'échelle de la ville, pour affirmer son ouverture sur la culture des musiques et de l'art, et dans l'appréhension justement des contre-cultures qui deviendront par la suite issues du punk, comme l'art, la musique et autres mouvements culturels. Merci.
Bien, merci Marguerite.